Je vous invite à écouter quelques versets dans le Lévitique au chapitre 25 et au verset 20. Vous allez peut-être vous demander, aurons-nous assez à manger lorsque tous les 7 ans, nous n'aurons pas le droit d'ensemencer nos champs ni de récolter ce qu'ils produisent? Eh bien moi, le Seigneur, je vous comblerai de biens au cours de la 6e année et j'ordonnerai à la terre de produire des récoltes pour 3 ans. Au psaume 90, au verset 12, il est dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse ». Et je vous donnerai une petite citation que on voyait de partout dans les foyers chrétiens. Alors vous allez vous dire un peu le lien, mais vous verrez que tout ça est lié. Vous savez, sur un panneau en bois, souvent il y avait cette citation « Christ, le chef de cette maison, hôte invisible à chaque repas, auditeur silencieux de chaque conversation ». Vous voyez de quoi je parle. Et le dernier verset que je citerai avant de commencer la prédication, Colossiens chapitre 4, verset 5. « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps ». Alors ce matin, j'aimerais parler sur le thème des vacances. Alors qu'est-ce que nous faisons de notre temps libre? Alors on se lève, on commence la journée généralement un tout petit peu plus tard, et on n'a rien de particulier sinon d'aller se baigner si on est en bord de mer. Pour d'autres, il y a la montagne et du temps libre, et souvent ça dépend de la météo pour savoir si on va faire une randonnée ou pas. Quels que soient nos projets, ces temps de vacances nous donnent donc beaucoup de liberté pour organiser notre temps. La question que je me pose, est la suivante. Est-ce que je profite de ce temps pour passer plus de temps avec Dieu? Là où le matin je lisais ma Bible en 15 minutes chrono et 8 minutes pour prier, dans le meilleur des cas, vais-je donner plus de temps lorsque j'aurai du temps libre? C'est la question que je nous pose ce matin. Comment nous utilisons le temps libre en vacances pour notre culte personnel? Alors, c'est loin d'être aussi facile que ça, hein. Ça n'est pas du tout joué d'avance. Parce que quand on change nos habitudes, si on ne prend pas le temps pour nos vacances, le culte personnel ou la vie spirituelle, elle ne s'inscrit pas automatiquement dans notre programme de journée. Il peut même arriver que parfois, pendant nos vacances, on mette Dieu entre parenthèses. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Parce qu'on a des automatismes qui sont chargés et le culte personnel, parfois, n'est pas toujours prioritaire. Bon, je ne vais pas généraliser, hein, mais je me base un peu sur ce que des fois que je peux faire. Il y a tant de choses à préparer dans une journée quand on est au bord de l'eau qu'on aimerait se laisser déborder par d'autres impératifs. Il y a plein de petites choses que l'on prépare lorsqu'on est en vacances. La vie est ainsi faite. Bref, ce que je veux vous dire ce matin, c'est que le temps que je passe pour Dieu n'est pas naturel ni automatique. C'est un effort, c'est une discipline, ce qui ne veut pas dire que ça soit un moment désagréable. Mais en dehors de notre quotidien, où on est toujours organisé avec un planning bien serré, il faut que nous apprenions à mettre du temps à part pour prier, pour méditer et étudier la Bible. Alors le tout, ça se fait toujours dans quelque chose qui est dans une formule bien rodée. Et je crois que c'est une bonne chose, hein. Il n'y a aucun mal à organiser notre culte personnel sur un programme. Dieu ne nous juge pas sur ce principe. Le tout est de parvenir à lui laisser une place et d'être soucieux de la présence que nous avons dans nos faits et gestes. Jésus le dit lui-même, hein, cherchez d'abord en toute chose, cherchez le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, il ne s'agit pas simplement d'un bon conseil ou d'une préconisation, mais il s'agit bien d'un ordre divin, d'un commandement. Alors pourquoi? Parce que Dieu a créé le temps, comme il a créé l'univers et la terre entière. Le temps est quelque chose qui est consacré à Dieu. Il affirme, parce qu'il dit qu'il a mis 6 jours pour créer la terre et l'univers, et il a créé un jour pour le septième jour pour le glorifier. Alors si vous regardez comment la Bible parle du temps, vous allez réfléchir et vous verrez comment gérer ce temps pendant vos temps libres ou vos temps de vacances. Je vous dis cela parce que peut-être que vous vous êtes dit que parler de vacances dans un culte, c'est de saison, hein, ça fait bien parce qu'on est en vacances, on parle de vacances. Parler de vacances est peut-être un terme mineur. Eh bien, c'est tout le contraire. Parce que Dieu a institué des temps de non-travail dans le Pentateuque. Dans les 5 premiers livres de la Bible, il a mis des instructions très précises sur ce qu'était le temps libre. Et croyez-moi que si on n'observait pas le temps libre dans la Bible, pour certaines choses, comme le sabbat, eh ben c'était puni de mort. Bon, que de sévérité. Heureusement, il s'agit d'une loi. Hein, si elle était là, cette loi, c'était pour protéger le peuple d'Israël de l'idolâtrie. Parce que Dieu avait choisi ce peuple, qui était un peuple saint, et il devait avoir une pratique bien précise et prendre du temps à consacrer à Dieu, chose que ne faisaient pas les autres tribus ou les autres peuples. Alors, nous n'avons pas aujourd'hui de jour précis. Oui, on a toujours, aujourd'hui, nous avons quand même le dimanche qui est le jour de culte. Mais attention, si on regarde l'Ancien Testament, ces lois que Dieu a données sur les temps libres, sur les temps où il n'y avait pas de travail, elles ne sont pas totalement dépassées, parce qu'elles étaient tout à fait utiles et fondamentales pour le peuple d'Israël. Il faut savoir que le temps était important pour les Israélites, comme le dit le psalmiste, au chapitre 90 et au verset 12. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Alors pour ces vacances, point d'exclamation, qu'est-ce que je dois faire? Comment les vivre sans se sentir coupable? Comment organiser mon emploi du temps pour vivre ce culte raisonnable que mentionne l'Écriture? Comment me ressourcer et pouvoir recharger mes batteries? Alors on va essayer de tirer les leçons de l'Écriture en mettant en clair ce que Dieu nous demande. Alors on va essayer de répondre à 3 questions. Quels sont les principes de gestion du temps libre dans l'Ancien Testament? En deuxième partie, idem pour le Nouveau Testament. Et en troisième partie, idem pour nous aujourd'hui. Alors qu'est-ce que Dieu a donné pour gérer le temps libre dans l'Ancien Testament? On sait que Dieu a créé le monde en 6 jours et que le septième jour, il a pris un temps mis à part. Ce septième jour, il est dit pour se reposer, mais aussi pour le glorifier. Alors, si Dieu a créé le temps, c'est que pour nous, on doit en tenir compte. Si Dieu se sert du temps pour nous conduire, c'est parce qu'il veut nous préparer et que parce qu'il a, dans le temps qui passe, il a des choses qu'il nous demande de faire, d'accomplir. Et Dieu nous redemandera des comptes sur le temps qu'on lui consacre. Mais il n'y a pas que des comptes hein, qu'il va nous donner. On aura aussi, il est dit dans l'Écriture, que nous aurons des récompenses par rapport au temps. Et il est aussi donc question de ces récompenses célestes. Et elles seront données aux rachetés selon ce qu'ils auront mis à part pour Dieu. Cela ne veut pas dire que dans tout ce temps-là, il n'y aura pas des temps de repos. Au contraire, on doit respecter ces temps de repos, puisque Dieu lui-même, il les a créés et il les a voulus dans son plan. Alors, le seul principe qui serait à retenir dans notre quotidien, c'est que quelque chose qui rende un culte raisonnable. Cette expression, elle revient souvent pour donner des indications sur comment on doit vivre notre vie chrétienne au quotidien. Ce qui veut dire clairement que nous sommes en communion constante avec Dieu et que cette présence spirituelle nous rend aptes, nous rend opérationnels pour que nous soyons avec lui en pensée, en acte, en mots et en esprit. Et on sait que Dieu a institué ces règles précises pour la vie religieuse de son peuple. Donc c'est vrai que même avant Moïse, les patriarches, il n'y a pas de choses très précises, mais on savait que les patriarches, même s'ils n'avaient pas des commandements aussi précis, ils vivaient dans la présence de Dieu. Et il y a plein d'exemples quand on voit la vie d'Abel, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il y a eu des instants où on sentait qu'il y a eu des épisodes et on voyait que ces gens-là étaient dans la communion avec Dieu. Et il est même dit qu'ils offraient des sacrifices et des holocaustes. Alors on va revenir très rapidement sur ces temps de mise à part dans l'Ancien Testament, sur le jubilé et le sabbat. Donc je vous ai lu en introduction dans le Lévitique, au chapitre 25 et au verset 20, il fallait un temps d'arrêt, donc je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais vous pouvez regarder ce chapitre 25, vous verrez qu'il y a pas mal d'enseignements. Ce que je veux dire, c'est que le jubilé et le sabbat étaient un projet de Dieu. Et vous savez pourquoi c'était un projet de Dieu ? Parce que Dieu avait donné ça au peuple d'Israël, il était adressé que pour le peuple d'Israël, hein. Ce n'était pas pour toute l'humanité, c'était que Dieu voulait recréer pendant ce temps les mêmes conditions qu'il y avait à la création avant la chute. Donc le projet de Dieu était vraiment un projet très important. Malheureusement, ce projet du jubilé qui concerne la 49e et la 50e année, ce temps où il ne devait pas travailler, où il ne devait pas ensemencer, ce temps qui devait être un temps de bénédiction particulière, à aucun moment Israël ne l'appliquera. À aucun moment ils ne pourront faire cette expérience. Et je pense que là, ils sont passés à côté d'une immense bénédiction. Donc, on ne peut pas dire comment aurait été ce temps-là, puisque Dieu l'avait adressé à Israël et qu'Israël n'en a pas voulu, tout simplement parce qu'ils étaient dans la désobéissance et qu'ils n'en avaient pas forcément, ils n'en avaient pas envie, ni la volonté, ni le désir. Alors aujourd'hui, donc, nous vivons une alliance nouvelle en Jésus-Christ et nous allons voir comment ces ordonnances ou ces conseils ou même ces commandements sur le temps et aussi sur le repos ont été réactualisés avec le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on voit que le temps doit être géré. Et les exemples ne manquent pas, ne serait-ce que quand vous voyez la vie de Jésus quand il parle du temps. Il parle de son temps messianique, quand il doit aller accomplir le sacrifice et la résurrection, quand il parle de Golgotha. Il parle aussi de son retour dans la parabole des 10 vierges. Il parle aussi de la bonne utilisation du temps avec la parabole du maître et de ses serviteurs et la parabole des talents. Et Paul, l'apôtre Paul, lui, il induit une nouvelle donnée par rapport au temps. Il parle du rachat du temps. Et il parle aussi du dernier temps et aussi de la sanctification. Pour ce qui est du temps de repos et du sabbat, Jésus dit qu'il est lui-même le maître du sabbat et que c'est en lui que nous trouvons le repos nécessaire. Alors, sur la gestion du temps, que ça soit du temps libre ou du temps où on travaille, Paul nous prévient et il nous dit la chose suivante, dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Cela signifie que le temps qui passe, le temps comme ça qui passe, est un temps qui est difficile. Et ici, le temps revêt une notion négative. Le temps devient une échéance, et une échéance qui passe par des temps de tribulation. Et il suffit que vous regardiez ce que Jésus dit sur le temps dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, et vous en serez convaincus. Donc en tant que chrétien, aujourd'hui, on est appelé à être un bon gestionnaire du temps. Et pour cette raison, notre mode de vie doit accomplir tout ce que Dieu nous demande, que ça soit des bonnes œuvres, et aussi avoir un comportement exemplaire. Alors ce comportement, si vous voulez, c'est un comportement qui est calqué sur avoir pratiqué ou être vertueux et être disponible et serviable. Et ça se rapproche un peu des conseils qui sont donnés dans l'Ancien Testament sur la sagesse. Hein, Dieu donne, il donne quelques conseils dans les proverbes, tout ça, pour avoir une bonne intelligence. Et on peut dire que aujourd'hui, on peut s'emparer de ces conseils pour vivre notre quotidien. Alors, nous devons racheter le temps. Ça, c'est une notion qui m'a interpellé. Dans Colossiens chapitre 4, verset 5, il dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps ». Et Éphésiens 5, 16 insiste, il dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais ». Alors, racheter le temps, si vous voulez, c'est une notion de sagesse. En tant que chrétien, on est devenu donc de nouvelles personnes en Christ, et par là même, la sagesse est la même que celle qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, le psaume 90 au verset 12 dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse ». Vous voyez là toute l'actualité un peu de cette parole. Donc, cette sagesse biblique nous indique que le temps qui passe ne se rattrape pas. Nous devons faire au mieux pour construire notre vie avec de la conscience et beaucoup de soin. De la même manière, nous prenons soin dans notre vie quotidienne d'être attentifs à nos loisirs, à l'habillement, à notre métier, à la famille, à l'éducation. Et nous devons investir le temps qui nous est donné pour aussi soigner notre vie spirituelle. Et ce souci-là est un précepte de sagesse biblique. Racheter le temps veut dire aussi le mettre à profit. Donc la fin des temps montre que nous devons investir le temps en sachant qu'il n'y a plus de distinction dans la nouvelle alliance entre les jours profanes et les jours sacrés. C'est ce que nous dit Romains 14, verset 5. Et une chose est sûre, c'est que Jésus dit lui-même, le Fils de l'homme est le maître du temps et le maître du sabbat. Donc aujourd'hui, on est appelé à vivre toutes nos activités comme un service du Seigneur, comme un culte que nous rendons à sa gloire. Donc si je résume, ma vie tout entière est un culte raisonnable voué à Dieu. C'est une expression qui revient assez souvent. Donc la prise de conscience que nous sommes dans un temps d'urgence, où la promesse du retour de Jésus se fait de plus en plus pressante. Donc Dieu nous demande d'être vigilants. Et dans Matthieu, il dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Alors Jésus sait que nous avons parfois des moments de faiblesse, mais à aucun moment, donc, ces moments de relâchement vont mettre en question notre salut. Par contre, ça va jouer dans notre sanctification, et ça peut aussi, si on se relâche ou si on prend le temps, on ne prend pas Dieu au sérieux dans notre gestion du temps, on prend du retard un petit peu dans notre démarche de progression spirituelle, celle qui nous demande de devenir des adultes en Christ. Donc, il y aurait encore bien des choses à étudier sur la gestion du temps, qu'il s'agisse du quotidien, du temps libre ou des vacances. Mais tout me pousse à vivre pleinement tout ce que Dieu me demande, et tout particulièrement dans la vie de l'Église. Alors si on parle de la vie de l'Église, pour prendre des exemples concrets, de quoi s'agit-il ? Bon, ben, vous avez les services, il faut être attentif à la communion fraternelle, aussi à la mission, à la formation, à l'étude biblique et théologique, à l'engagement humanitaire, à l'évangélisation. Et je suis reconnaissant que dans notre Église, on a tout cet éventail qui permet de s'engager. Et en même temps, si on s'engage, on a en compensation des temps de rafraîchissement. Et l'Église est une opportunité aussi pour nous renouveler. Alors, tout ça, c'est bien beau, mais il faut aussi que lorsque nous accomplissons toutes ces tâches ou tout ce que nous faisons dans l'Église, nous ayons la motivation. Et c'est ce qu'on va voir juste dans cette dernière partie pour conclure. Comment je gère mon temps aujourd'hui dans ma vie chrétienne? Comment je me positionne devant Dieu? Je dirais que une des clés, c'est d'avoir le souci de Dieu en permanence. Il n'y a pas forcément des règles très précises. Donc je vais essayer de voir quelle doit être ma disposition d'esprit quand j'ai du temps devant moi, que ça soit en vacances ou à d'autres moments. Et je dirais que parfois, il faut la jouer fine, hein, parce que on peut rapidement se sentir assailli par de la culpabilité. Combien de fois j'ai entendu dire dans les prédications, oui, profitez des vacances pour passer du temps avec Dieu, de lire et d'étudier. Et si on ne fait pas ces choses-là, ben, des fois, c'est la culpabilité qui monte en premier. C'est pas toujours quelque chose de très sain. Au contraire, en clivant un peu trop, on se bloque et on n'avance pas. Donc, je dois éviter, je dirais, de faire une distinction trop forte entre mon temps de travail et mon temps libre. Je dois avoir une perspective différente et voir les vacances comme un prolongement de ma vie chrétienne et non pas comme quelque chose qui est une rupture. Sinon, comme je vous l'ai dit, je risque un blocage et être assailli par la culpabilité. Et si ce sentiment de culpabilité est là, on sait que Satan est là pour l'activer. Et c'est d'autant plus facile que quand on est en vacances, des fois on perd un petit peu nos repères et on est un peu délocalisé de notre lieu de vie. Et si, là, c'est cette faille-là que Satan utilise pour nous déstabiliser. Alors, comment résister à ces changements de rythme, d'habitude, et comment organiser notre quotidien? Donc, je dois éviter un peu les ruptures trop brutales. Et souvent, comme je disais, on reste sur des choses très clivées. Alors, soit je vais jouer l'évitement et je vais mettre ma vie spirituelle en parenthèse, ou soit je vais faire ce qu'on appelle le minimum syndical, ou soit je me dis que quoi que je fasse, je serai toujours en dessous de ce que Dieu me demande. Et à ce moment-là, je tombe dans une forme de légalisme. Et bon, je dirais qu'une des pistes à travailler, c'est de dédramatiser la situation et non pas de surévaluer l'enjeu spirituel du culte personnel. Le temps libre, que ce soit pendant le week-end ou les vacances, ou un temps de repos, c'est pas forcément un temps d'inactivité. Alors, si nous avons du temps disponible, eh bien, il faut se laisser la liberté d'inventer et de créer des espaces pour notre culte personnel. Il faut le prendre, je dirais, avec un peu de distance, mais aussi et puis dédramatiser. Et bon, c'est vrai que le Nouveau Testament ne donne aucune précision. Mais on voit quand même une chose, c'est que Jésus, lui, savait prendre un temps à part, parce que c'était une nécessité. Il est dit que souvent, il se retirait seul pour passer une nuit dans la prière. Mais je dirais qu'il faut faire confiance à notre part de créativité pour se donner, si vous voulez, les moyens d'avoir un culte personnel. Alors, ça peut être de la méditation, une activité, mais ce qui est central, c'est d'avoir, si vous voulez, de rechercher la présence de Dieu. Alors, une autre chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas de congé sabbatique, par contre, pour louer et servir Dieu. Bien au contraire, il faut positiver ces moments de vacances pour tenter l'aventure avec notre Dieu. Et Dieu, lui, sera fidèle au rendez-vous. Il nous inspirera pour trouver une formule qui soit pleinement satisfaisante. Donc, ça peut aller d'une lecture biblique plus approfondie, de plus de moments de méditation, d'expérience, ou de projets d'études bibliques, etc., etc. Ce que je dis risque d'aller à contre-courant. Vous avez certains, et j'ai, comme je vous le disais tout à l'heure, qui vont vous dire, si vous partez en vacances, choisissez une église sur votre lieu de vacances, faites un camp chrétien, participez à une campagne d'évangélisation. Alors bon, ce sont de très bonnes choses, hein, mais il faut que si on le fait, on le fait avec une motivation claire et sans chercher à être légaliste ou traditionnel. Si notre cœur n'y est pas, ce genre de choses est peu productive. Alors je vais m'arrêter là, parce qu'il y a une infinité de conseils et de stratégies pour profiter au mieux, si vous voulez, de notre temps de vacances. Pardon. Chacun est juge de sa gestion du temps et devra rendre compte de tout cela à Jésus-Christ, en recevant, comme je l'ai dit, des récompenses qu'il nous a réservées et aussi certainement des choses où il nous demandera des comptes. Nous ne serons pas jugés, mais sachons être disponibles et apprenons à encourager et aussi à soutenir les frères et sœurs qui s'engagent autour de nous. C'est aussi des exemples. Et c'est eux qui nous montrent la voie. Nous sommes arrivés ce matin au terme de notre réflexion et je prie pour que Dieu vous inspire et vous bénisse dans vos choix d'activité. Que Dieu vous bénisse. Amen.